RMC, entre les poteaux,
Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, J-1 avant le choc que tout le monde attend, France-Nouvelle-Zélande au Stade de France, c'est parti pour la Coupe du Monde qui débute demain et à la veille de cet immense événement en France, on vous propose tout au long de cette Coupe du Monde un épisode quotidien d'Entre les Poteaux pour revenir sur toute l'actu de la planète rugby. On sera tous les jours en immersion avec nos reporters qui suivent le 15 de France, on sera au cœur des plus grandes nations du rugby mondial. Il y aura bien évidemment des débats, des reportages tous les jours dans Entre les Poteaux, RMC et la radio officielle de la Coupe du Monde, et on vous met, auditeurs d'Entre les Poteaux, au cœur de la compétition. Au sommaire, aujourd'hui, épisode 100% France-Nouvelle-Zélande. On se penche sur les deux compositions d'équipes qui sont tombées hier. Les Bleus sans Danty, les Blacks ont-ils leur équipe au complet? On vous donne les rapports de force avant le match de demain avec Wilfried Templier et Winnie Claret qui viendra nous raconter le dernier entraînement des Bleus au Stade de France. Ça vient de se terminer. Et puis, on terminera cet épisode en vous faisant revivre la semaine des Blacks depuis leur arrivée sur le sol français, entre les poteaux, c'est parti. Ils sont là, excités comme jamais avant de commenter ce match que tout le monde attend. Salut Wilfried Templier, Winnie Claret.
Salut Nico. Salut Nico.
Superbe sommaire. Hein.
C'est vrai, hein. J'ai été meilleur que Christophe Cessieux, c'est ce que tu veux me dire?
Je ne peux pas dire ça parce qu'il faut gérer toute la Coupe du Monde. Donc,
non, mais c'était quand même à la hauteur d'une Coupe du Monde.
Merci, bon, heureusement qu'il ne nous écoute pas Christophe. On va bien sûr revenir avec vous sur les compos de ce France-Nouvelle-Zélande qui sont tombés hier, en commençant par celle des Bleus. Pas de grosse surprise, Wilfried. Le staff a décidé de ménager, notamment Jonathan Danty, c'était attendu. Est-ce que tu peux nous donner le 15, également le banc de touche, hein, parce qu'on a des petites surprises au niveau du banc de touche peut-être?
Ouais, alors première ligne, Reda Wardi, Julien Marchand, Winnie Antonio. En deuxième ligne, Cameron Hockey avec Thibaut Flamand. Troisième ligne, Cross et Charles Livon, qui entoure Grégory Aldrit. En neuf, Antoine Dupont avec la charnière Mathieu Jalibert. Ailier gauche, Gabin Villiers, ailier droit, Damien Penaud. Et au centre, on a Yora Moefana, donc on va en parler, à la place de Jonathan Danty, et Gaël Ficou à l'arrière, Thomas Ramos, les remplaçants Movaca, Gros, Aldeguerri, Tofi Fenua, Boudéan, Lucu, Vincent et Jaminet.
Donc un banc en 5-3, on y reviendra tout à l'heure, hein, parce que c'est peut-être pas forcément une évidence quand on voit le mandat de Fabien Galthié sur ces 4 dernières années, mais bien sûr, les regards seront braqués, Will, sur Yoram Moefana, qui va remplacer Jonathan Danty. On se demande s'il peut rivaliser à ce niveau-là. Est-ce qu'il va apporter de différent par rapport à Danty, parce que c'est difficile de remplacer Jonathan Danty dans le profil, hein.
Ouais, bah, Jonathan Danty, c'est le point d'appui des Bleus au milieu de terrain depuis des mois maintenant. C'est celui qui te met dans l'avancée. C'est le gros porteur de ballon au milieu de terrain. On a déjà perdu des porteurs de ballon, que ce soit Cyril Baye ou Paul Willemse, même Anthony Jelonche. Donc Baye et Jelonche qui doivent revenir. Mais voilà, ça fait pas mal dans ce style-là. Et c'est aussi un très gros gratteur au niveau du jeu au sol. Un bon défenseur, et on avait aussi perdu entre guillemets Romain Tamac, donc le milieu de terrain est quand même bien entamé pour les Bleus. Maintenant, Yoram Moefana, 18 sélections, c'est un habitué du. Ils aiment bien le staff dire ça. On a notre formule à 42, et mais c'est ce qui fait la force de cette équipe de France depuis 4 ans et la force du rugby français, ce que la Fédé a réussi à mettre en place avec la Ligue, c'est-à-dire que depuis 4 ans, il y a 42 joueurs qui sont là tout le temps aux entraînements, aux tournois, aux tournées. Donc, ils sont interchangeables. Yoram Moefana n'est pas Jonathan Danty, mais il a les qualités de puncher tout de même pour le remplacer. C'est le profil le plus proche, parce qu'on se demandait si Arthur Vincent pouvait aussi postuler. Mais Yoram Moefana, le profil le plus proche de Jonathan Danty, donc pour le suppléer. Mais on attend beaucoup, Nico, comme de Yoram Moefana, qui avait supplé Jonathan Danty, qui était déjà blessé pour les deux tiers du tournoi et qui avait été, bon, pas franchement transcendant.
Ouais, il est un peu moins flamboyant ces derniers temps.
Donc, il y a une grosse pression quand même sur Yoram.
D'ailleurs, il y avait quand même. On a eu une drôle de discussion avec son tonton, qui est aussi chez les Bleus, hein, Sipili Falatea, le pilier droit, qui nous a dit oui, il avait fait une saison excellente en 2022. Il avait un peu pris le boulard, hein, c'est concrètement ce qu'il nous a dit. Et il m'en a même un peu voulu, il était un peu vexé parce que j'ai essayé de lui dire attention, tu prends trop confiance. Donc j'ai demandé à la famille qui était extérieure au groupe de lui dire peut-être, de lui faire comprendre que peut-être que c'était pour ça qu'il était un peu en dedans sur cette saison 2022-2023.
Après, c'est une ascension incroyable, Yoram Moefana. Moi, je l'ai vu évoluer à l'UBB. Ouais. Il est arrivé sans statut, il a tout de suite explosé, il s'est développé physiquement. Maintenant, il a des cuisseaux. Sa cuisse droite, c'est deux Templiers, donc je peux vous dire que c'est assez impressionnant, franchement. Les cuisses de Yoram Moefana, et c'est vrai qu'on attend beaucoup, notamment son jeu après contact. Il est très, très fort là-dedans, et peut-être qu'il pourra apporter des choses différentes de Jonathan Danty, ça c'est sûr. Will aussi, on s'interrogeait un peu sur. sur ce qui allait se passer en deuxième ligne avec la blessure de Willem. C'est est-ce que le staff allait mettre vraiment un gros porteur, Taofi Fenua, Chaluro, dès le début de match. Finalement, c'est là encore la logique qui l'emporte. Woki Flamand, l'attelage de la deuxième ligne, sera peut-être un peu léger pour rivaliser avec les Blacks ou cette paire peut faire l'affaire.
Ils se défendent toujours de ça, hein, quand on leur parle de ça, que ce soit le staff, les joueurs ou Thibaut Flamand lui-même, dire qu'on est léger. Alors c'est pas Willem C, c'est pas Taofi Fenua quand on le met à droite. Et historiquement, c'était plutôt un gaucher en deuxième ligne, entre guillemets. Donc c'est pas un méa fou avec qui il joue à Toulouse, par exemple, qui est associé à Toulouse. Mais cette deuxième ligne, on a quand même battu les box avec cette deuxième ligne, même si Thibaut Flamand nous avait quitté, petit oiseau parti trop tôt dans ce match. On a vu quatre commotions dans ce match qui était une boucherie. On avait cette deuxième ligne, on a battu, ce qui est une référence au niveau du paquet d'avant, c'est les box. Donc ce sont pas les petits All Blacks qui vont nous faire peur quand même. C'est le vécu. De toute façon, avec le staff, c'est toujours pareil. C'est le vécu commun, c'est l'expérience. Voilà, on va au plus simple, au plus pragmatique. Donc, on va pas mettre Taofi Fenua. On n'a pas 80 minutes dans les jambes. C'est pareil pour Chaluro. On a confiance en Thibaut Flamand et Cameron Woki. Et peut-être que. Avec un pack en face qui sera plus dynamique, plus technique chez les All Blacks, qui va plus se déplacer, peut-être qu'on veut aussi relever le défi comme ouais, ça
il
devant.
Peut peut-être plus correspondre Thibaut Flamand face à ça.
Et dans les airs, attention, hein, parce que Woki Flamand, pour aller contester les Blacks en touche, c'est quand même ultra costaud en l'air. Donc,
c'est peut-être l'idée.
Ouais, c'est peut-être un peu l'idée aussi du staff des Bleus, légèrement. Faut qu'on parle aussi du banc, quand même, Wilfried, parce que, bon, alors je sais pas si t'as pu regarder les chiffres
non.
Un petit peu. Voilà, bon. On a quand même beaucoup.
De balancer comme ça en plus.
Allez, une première saucisse. Oh, c'est le premier podcast de la Coupe du Monde, ça y est, je te mets déjà dans le dur.
Non, mais je t'avais dit, je regarderai combien de fois ils ont fait 6-2, combien de fois ils ont fait 5-3.
Non, mais t'as préféré aller manger à la cantine.
4h du match d'ouverture.
Non, mais d'accord, mais il y a plutôt une tendance au 6-2 récemment.
Bien sûr.
C'était boudin puré à la cantine, on a bien compris, t'as choisi le boudin puré.
on donne la coulisse entre les
vous
photos.
Hein,
on embrasse nos auditeurs.
Non, mais on avait plutôt l'habitude. Alors, même si c'est vrai que ces dernières semaines, il y avait une tendance au 5-3 qui revenait fortement, 5 avant, 3 arrière sur le banc de touche. Mais depuis que Galtier a eu de gros résultats avec ce 15 de France, on était plutôt en 6-2 avec un Sekou Makalou polyvalent qui pouvait dépanner à l'aile et en troisième ligne. Et là, finalement, il fait le choix du 5-3 face au Black, Will.
Mais c'est parce qu'on marchait physiquement sur les adversaires. C'était la mode, ce 6-2. Moi, ça me rappelle les Sudaf en 2019, en fait, qui avaient 4 deuxièmes lignes, en fait, quoi, avec, parce qu'il y a Peter Steph Dutoit. Franchement, c'était cette marque-là. Et c'est comme ça qu'on a fait une année, enfin, à partir du moment où on bat les Blacks, la tournée où on bat les Blacks, le Grand Chelem, c'est qu'on a été dominant physiquement. On faisait rentrer 6 avant. Alors maintenant, les Box ont inventé le 7-1. C'est encore pire. Mais nous, on est revenu au 5-3. Galtier nous a dit c'est la stratégie du moment, c'est la forme du moment, c'est comme ça. Je pense que Paul Boudéan a marqué énormément de points cet été. Et Makalou, on a peut-être un peu perdu. Et puis surtout, quand on regarde derrière, il nous faut un remplaçant en 10. Et ils se sont dit sûrement que le vécu d'Astoy était pas assez fort pour rentrer dans un match comme ça. Vous imaginez, vous êtes sur le banc, vous pouvez rentrer au bout de 3 minutes. Hein. Donc ça veut dire que le remplaçant de Jalibert, c'est Ramos. Et donc faut mettre Jaminé. Et puis voilà, et au milieu du terrain aussi avec Moefana, faut un Arthur Vincent qui couvre.
Pourquoi pas un Paul Boudéan d'ailleurs, hein, qui pourrait remplacer au centre aussi.
Bon.
C'est solide.
Ouais, enfin c'est vraiment dernier.
C'est expérimental ça. Quand même.
Mais on l'a vu cet
Paul
été.
Paul Boudéan en match d'ouverture de Coupe du Monde au centre. Face au Black, c'est quand même tout un. Enfin, c'est spécial quand même. Donc, ce sera vraiment dernier recours. Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'ils ont fait 5-3. C'est un peu surprenant parce que d'habitude, c'est le 6-2. Mais c'est face au Black. Et c'est pas face à l'Afrique du Sud, je le redis, ou un plus gros pack, quoi.
On a bien débriefé cette compo du 15 de France. On va quand même entendre Gamin Villiers, l'ailier des Bleus, sur l'absence de Danti, qui est la grosse info de cette compo. Est-ce que c'est une perte pour le 15 de France, la réponse de Villiers?
C'est sûr que Jonathan a de grandes qualités au niveau des grattages, tout ce qui est percussion, jeu direct. On a des mecs derrière qui sont prêts à répondre présent. Yoram, c'était de l'aventure pour le Grand Chelem. Il est capable de mettre des passes après contact. On va utiliser ses qualités à lui. On perd un élément fort, mais on a derrière un autre élément fort pour le remplacer.
C'est vrai que Gabin Villière qui parle encore de ces multiples choix dont dispose le staff du 15 de France pour avoir une équipe performante demain face aux Blacks. Bien évidemment, hein, on se plongera dès l'épisode de demain matin sur les clés de ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande. On va quand même rapidement évoquer Wilfried Winny, la compo des Néo-Zélandais, parce que nous on dit qu'on a pas mal d'absents, 4-5 absents dans notre 15 titulaire qu'on envisageait avant le début de cette Coupe du Monde. Mais est-ce que les Blacks sont handicapés comme nous?
Oui, beaucoup.
Et d'ailleurs, à un poste clé aussi, hein, le numéro 12, exactement face comme Jonathan Danty.
Ouais. Jordi Barrett, qui jouait arrière il y a deux ans, en novembre, face à la France. C'était la trouvaille pour les Blacks. Hein, il l'avait mis en 12 au milieu du terrain. Il faisait la même chose qu'on fait avec Danty. Et Jordi Barrett est out. Donc c'est la même chose. Et c'est Linnar Brown qui est sélectionné, qui a un poil plus de vécu quand même que
Jordi Barrett.
Que notre ami du bébé. Ça commence bien.
Yoram Moefana.
Yoram Moefana.
T'es passé chez les Blacks, d'accord.
Ça ira mieux demain, vous inquiétez pas.
Yoram, tu sais.
Donc ils ont la même chose. Ils ont Retallick qui est absent aussi. Nous, on a William Seu, ils ont Retallick. Ils ont Lomax en pilier droit. Donc ils ont des absents notoires quand même. Hein, les Blacks, c'est Lolala qui sera le futur Toulousain qui sera titulaire en pilier droit. C'est un jeune Faumouina en fait, hein, pour vous expliquer un peu le truc. Et ils ont aussi Frizzell aussi qui n'est pas là. Alors pour ceux qui ont suivi, j'ai un petit problème de casque.
T'as marqué les esprits en rugby championship, lui.
Frizzell, je vous conseille d'aller voir si vous pouvez encore le Nouvelle-Zélande Afrique du Sud du mois de juillet. Frizzell, il passe sur tout le monde. Il passe d'ailleurs sur Willy Leroux sur son essai. Hein, et c'est moi, il me dit, c'était un gelon champ maori. Donc ils ont pas mal d'absents aussi.
Winny, l'actu du jour de nos Bleus. Ce matin, dernier entraînement au Stade de France, le Captain Run. Tu y étais avec Julien Landry. Bon, tout s'est pas vraiment passé comme prévu pour nous Bleus. Faut que tu nous racontes rapidement ce qui s'est passé et un peu la dernière tendance là. Comment t'as senti nos Bleus au Stade de France?
Alors, juste rapidement, ils sont arrivés avec plus d'une heure de retard sur la pelouse du Stade de France. On attend confirmation exactement de la cause. Ils avaient 2 heures de créneau pour s'entraîner au Stade de France. Ils sont arrivés à 11h au lieu de 10. A priori, l'autoroute A1 était fermée en région parisienne ce matin. Le périphérique parisien était bouché de chez bouché. On sait qu'il y a énormément de journalistes qui sont arrivés en retard à cause de ça, mais moins en retard que les Bleus qui sont arrivés donc à 11h. On n'arrive pas encore à déceler. Est-ce que c'est effectivement les bouchons qui ont empêché les Bleus d'arriver à l'heure, ou est-ce que c'était leur décision que d'arriver une heure plus tard? Sinon, sur le terrain, tout ce qu'on peut te dire, Nico, c'est que il y a pour l'instant aucun changement. Les chasubles bleu-blanches des titulaires étaient bien données aux bons joueurs selon la compo donnée par Fabien Galthié hier.
Parfait.
Donc tout va bien. Le Stade de France aux couleurs de World Rugby, tout est prêt. Les tribunes sont magnifiques, la pelouse.
Et les photos de moi?
Et non, il n'y a pas des photos de Wilfried Templier.
C'est
juste
là,
le portrait qui manque, mais je crois qu'il était prêt à être déroulé d'un côté du stade.
Depuis qu'il commente les Bleus, il ne passe plus les portes. En tout cas, partez tôt demain. Hein. Vous ne faites pas piéger comme les Bleus. Vous n'êtes pas dans les bouchons pour nous commenter ce match au Stade de France. On va terminer ce podcast quand même, puisque c'est la promesse qu'on vous fait entre les poteaux. Et je vous rappelle, un podcast tous les jours, quotidien, pour vivre cette Coupe du Monde, avec des petits reportages ambiance partout, dans toutes les villes de France qui accueillent des sélections. Et bien évidemment, avant de jouer les Blacks, on est allé les voir lors de leur arrivée en France la semaine dernière. Depuis leur arrivée en France, ils ont fait un premier stop dans le nord avant de se rendre à Lyon, le lieu de leur camp de base. Léna Marjac devait suivre les Blacks comme leur ombre. Comment tu vas, Léna?
Ça va très bien, et toi, Nigo?
Ça va bien. Écoute, avant France-Nouvelle-Zélande, on est très excités. Tu les as donc suivis toute la semaine et ça a été quand même un peu spécial, hein, cette arrivée pour les Néo-Zélandais.
Oui, écoutez, là, c'est un moment symbolique. Un haka des 33 joueurs de la sélection au milieu de tombes de soldats néo-zélandais au mémorial de Longueval dans le Nord. Un haka en hommage à leurs ancêtres décédés lors de la Première Guerre mondiale. Une arrivée en France remplie d'émotions pour Sam Kane, le capitaine des All Blacks.
C'était une expérience incroyable à partager avec l'équipe. Au mémorial, des centaines de tombes sont celles de soldats néo-zélandais. C'était émouvant. On a appris ce que nos ancêtres ont vécu pendant la guerre, ce qu'ils ont réalisé, tous les sacrifices qu'ils ont faits. Ça nous a permis de comprendre le lien entre la France et notre pays. Ils ont vécu des choses ensemble.
Puis toute l'équipe s'est rendue vendredi dernier à Lyon, leur camp de base pendant toute cette Coupe du Monde. Un comité d'accueil restreint, une arrivée presque dans l'anonymat. Seul le personnel de l'hôtel est là. Alors que Sébastien et son fils Léo, 5 ans, maillot des Blacks sur le dos, attendent derrière les grilles de l'hôtel pour échanger avec leurs idoles.
Là, c'est du rêve éveillé. Parce qu'on est fan des All Blacks, ça se voit, je pense, à la couleur de nos maillots. On les suit au quotidien, on regarde tous leurs matchs depuis des années pour ma part, depuis quelques années pour mon garçon. Et de pouvoir les approcher, c'est fabuleux. Et de pouvoir avoir des moments intimes comme ça, c'est chouette. Ça crée du souvenir.
Et puis comme à l'accoutumée lors d'un mondial, les joueurs reçoivent la fameuse cape, leur casquette, lors d'une cérémonie d'accueil organisée dans la cour de l'hôtel de ville de Lyon. Quelques centaines de personnes présentes, tous les joueurs ont pris du temps pour signer des autographes et prendre des photos avec leurs supporters.
C'est émouvant surtout de les voir ici à Lyon. On est assez flattés qu'ils soient dans cette ville, de les voir si proches.
C'est vraiment bien, ils sont grands et musclés. Ils sont plus impressionnants qu'à la télé, ça c'est sûr.
Tu m'étonnes. C'est un événement vraiment rare qu'ils viennent jusqu'en France et à Lyon. Dans notre ville, c'est vraiment magnifique et franchement, ça fait grand plaisir. Malgré leur grande carrure, etc., ils sont vraiment super sympas et aucun a refusé une photo et tout. Ils ont tous essayé de prendre des photos avec tout le monde et ça, c'est super sympa.
Et les joueurs donc qui ont suivi la sélection néo-zélandaise s'est montrée quand même extrêmement discrète hein, sur sa préparation avant ce match d'ouverture face à la France. Mais en tout cas, tous les joueurs ont hâte que ce match commence.
Bon, vous avez entendu hein, Winnie Wilfried, ils sont grands et musclés. Faites gaffe à vous demain quand même. Ça met la chair de poule quand même ce petit AK. Hein. Ça met déjà la chair de poule tout au long de cette Coupe du Monde. Plein de reportages comme celui que vous venez d'écouter au cœur des adversaires des Bleus ou des différentes sélections. Wilfried, Winnie, je vous dis à demain puisqu'on vous retrouve hein, avec tous nos journalistes qui suivent le 15 de France tous les jours dans Entre les Poteaux. C'est un podcast quotidien, je vous le rappelle, pour vivre cet événement exceptionnel. Si vous aimez ce format d'Entre les Poteaux, vous n'hésitez pas à le partager, à nous mettre une petite note sur les différentes plateformes. Demain, vous retrouvez Christophe Cessieux et on va se plonger véritablement dans les clés du match de ce France-Nouvelle-Zélande. Il y en a plein, vous allez voir. On sera à quelques heures seulement du coup d'envoi. À demain, bye bye.